Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on reste dans les arbres pour terminer l'année en beauté, suite des échos du colloque qui s'est tenu à Brive début octobre, les états généraux de l'arbre autour de Francis Allais. Étienne Barthaud est arboriste et membre de l'association Sequoia. Alors Étienne, peut-être commencer par nous expliquer pourquoi vous vous appelez arboriste et non pas élagueur.
Arboriste, on parle encore beaucoup de grimpeur-élagueur ou d'élagueur-grimpeur. Et dans les années 90, le terme élagueur était un peu péjoratif. Parce que les lagueurs, on parlait de lagueurs comme l'homme qui un peu massacrait les arbres. On s'est un petit peu démarqué en s'appelant arboriste. Il y a des paysagistes, des pépiniéristes, des arboristes, ça passait bien. Voilà. Je vais vous expliquer un peu la démarche de l'arboriste dans son contexte quand on arrive chez un gestionnaire, un propriétaire d'arbres. Donc la relation qu'il y a entre l'arbre, le propriétaire et l'arboriste qui arrive mais qui ne connaît pas l'arbre qu'il va voir. Donc le propriétaire, lui, est en attente de réponse. Il pense qu'on va répondre forcément tout de suite à son besoin.
Qu'est-ce que ça peut être, son besoin, justement ?
Son besoin, c'est, si on nous appelle, c'est parce que son arbre a soit un petit problème, une branche cassée, ou que l'arbre prend trop de place par rapport à son jardin, son environnement, souvent proche des bâtiments, des maisons, des piscines aussi. Et donc, il nous demande d'adapter l'arbre à son environnement, avec sa vision. Et souvent, il demande de tailler. Alors, on ne refuse pas de tailler les arbres, bien entendu, c'est notre métier. Mais souvent, on met un petit peu le holà par rapport à ses attentes. Parce que nous, arboristes, on voit l'arbre dans son ensemble. Lui voit la gêne, la branche qui va gêner. Trop de feuilles, trop d'ombre. Nous, on voit l'arbre dans son ensemble. C'est un organisme vivant très complexe. Et on ramène les choses en l'amenant aussi dans la discussion, tranquillement, réfléchir un petit peu sur l'avenir de son arbre. Et une taille, une mauvaise taille, une fois, et la vie de l'arbre est compromise. On a des arbres qu'on a taillés très durement une fois. On sait que dans les 10, 20, 30 ans à suivre, cet arbre va être abattu. Alors que si on ne fait rien, en général, si on ne fait rien, cet arbre, il a certainement une espérance de vie de plusieurs siècles après tout. Donc, on l'amène à réfléchir en même temps que l'on fait le diagnostic. Et dans le diagnostic préalable, parce que pour tailler même une partie de l'arbre, des fois ça peut être très partiel, on fait un diagnostic complet de l'arbre. Donc voir son état sanitaire et son état, ce qu'on appelle la mécanique de l'arbre, sa solidité en fait. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde le sol, le collet, la base de l'arbre et sur quel terrain il est. Et très souvent, on a des arbres qui manquent d'eau, c'est parce qu'on a des sols très tassés, très compactés. Et on amène le débat comme ça. Votre sol est compacté, il y a peu de vie dans votre sol. On regarde un petit peu après les empattements de la base de l'arbre et on remonte tout doucement vers la cime de l'arbre. Et là, on arrive à son attente, à son problème. Le souci du propriétaire, c'est est-ce qu'une branche va casser ? Est-ce que l'arbre va s'arracher ? Et ça, c'est légitime. Et avec la tempête, le traumatisme de la tempête de 99, on a été très très sollicité, et c'est là où il faut faire la différence. C'est pas un élagueur grimpeur qui arrive et qui va couper. Pour nous, l'arboriste est une personne complète, c'est un petit expert, c'est aussi le praticien.
Si maintenant on monte avec vous dans l'arbre, qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes dans les branches?
Donc on a pris une décision, on va tailler l'arbre, on va légèrement réduire par exemple côté de la maison. Je me refuse en général d'enlever plus de, sur une branche, 25% de la masse foliaire. C'est beaucoup déjà, 25%. Pour un gestionnaire ou un propriétaire, c'est très peu. Parce que lui, il se dit, c'est un maximum. Donc, on sait choisir les branches aussi. On va enlever les branches qui chutent, qui descendent. Vous voyez, on garde toujours les branches qui remontent, les branches d'avenir. Donc, dans la forme de l'arbre, on garde toujours les branches qui ont plus de lumière, celles qui sont un peu enfermées, qui commencent à dépérir et très en pointe. Et le principal, c'est d'alléger un petit peu la structure. Et à ce moment-là, si ça ne suffit pas, on pose des cordes, des haubans. C'est assez discret. Et là, ça répond vraiment, ça évite de surtailler une branche. Et ça permet de répondre, parce que si la branche, elle est légèrement, elle est soutenue par les cordes, et si elle doit casser, elle restera dans l'arbre et elle ne tombera pas sur la maison. Donc on a quand même des réponses, mais c'est vrai que c'est dans l'arbre. On ne prend pas toutes les décisions du sol. C'est une fois qu'on est dans la pratique, dans l'arbre, qu'on est vraiment dedans, que là, on choisit cette branche, je vais tailler un petit peu ça, là, je vais intervenir. On ne prend pas toutes les décisions avant. C'est ce qu'on explique aussi.
On ne prend pas toutes les décisions avant parce que le point de vue est complètement différent une fois qu'on est là-haut.
C'est ça, c'est qu'on voit l'arbre par en dessous et nous, on voit la branche par-dessus. Et puis, avec l'expérience, on a des sensations dans l'arbre. On sent cette branche, on la fait bouger, on ne l'explique pas toujours, mais on a des sensations, quoi.
Ernst Zürcher, professeur, chercheur à la Haute École spécialisée bernoise.
L'arbre, source d'étonnement et d'inspiration. Tout au long de cette rencontre, on a passé de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement. C'est une faculté que chacun de nous amène dans sa vie, déjà comme enfant, quand on commence à penser, à observer, on commence à s'étonner. Et c'est une faculté qu'on essaye de cultiver ensuite par la suite des choses. On peut la laisser dépérir, et la vie dans le même sens dépérit aussi, mais on peut aussi la cultiver, l'animer, et c'est ce qui nous permet en fait d'avancer, le scientifique. Et ça, c'est démontré d'une manière extrêmement évidente et visible dans les livres de Francis Allais. C'est une suite d'étonnements. On apprend à s'étonner devant les choses qu'on a toujours considérées comme évidentes. Et il n'y a rien de plus étonnant que l'évidence. Et là, dans ce sens, j'aimerais juste suggérer deux ou trois choses. Un aspect sera concernant la photosynthèse. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais ici, il y a deux ou trois choses qui sont complètement tues dans les livres scientifiques, qui sont presque encore plus importantes que ce qu'on sait d'habitude de la photosynthèse. Le deuxième aspect concerne la provenance de la substance de l'arbre. L'arbre est fait d'énormément de matière. D'où vient cette matière? D'où te vient cela? Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas assez. Et maintenant, la troisième question, c'est comment est-ce que tu fais ça? Quels sont tes rythmes? Dans quel rythme es-tu en train de vivre, de te développer? Et cette question des rythmes va au-delà du rythme solaire, des saisons. C'est beaucoup plus subtil. Et là, on va voir qu'il y a deux ou trois choses absolument étonnantes. Et finalement, la forme. La forme, c'est aussi un sujet extrêmement étonnant sur laquelle on commence à se pencher, quelle est l'idée, la structure de base de telle ou telle espèce. Et là, j'aurais juste une suggestion, une réflexion du niveau général, quelle est la structure de base du végétal, de la plante, et quelles sont les relations avec ce qu'on aura vu juste avant. Donc, je suggère de voir l'arbre dans une polarité entre un être qui se dirige apparemment vers le ciel, mais en fait, si on regarde exactement, l'arbre pousse contre en bas, il ne pousse pas contre en haut. Si on regarde exactement d'où ça part toujours de la périphérie, et les méristèmes développent les cellules contre en bas et se poussent contre en haut. En fait, l'arbre se hisse contre le ciel, contre le soleil. Ça, c'est une première polarité. L'arbre en mouvement contre en haut, mais de manière paradoxale en se poussant contre en bas ou inversement. Le deuxième mouvement, c'est l'arbre qui s'enracine, qui prend pied, qui accumule de la masse. Ça, c'est cette polarité terre et ciel. Et la deuxième polarité, c'est celle de l'insertion dans le temps et l'insertion dans l'espace. Qu'est-ce que ça nous apprend? On se bat tous les jours avec cette question. On avance dans la vie, on a notre propre vie, on a une descendance, des enfants peut-être, etc. Et on a notre propre dimension. Que peut nous apprendre l'arbre à ce sujet? Tout d'abord, la photosynthèse, ça part du carbone, du dioxyde de carbone, le CO2, capté par les feuilles dans l'atmosphère. Et usuellement, on dit ça s'associe avec un peu d'eau, la lumière solaire, pour donner du glucose. C'est donc ensuite le C6H12O6. Et de l'oxygène. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, il faut pas seulement 6 molécules d'eau pour s'associer à 6 molécules de CO2, il faut 12 molécules d'eau si on considère la formule complète de la photosynthèse. Et cette eau est complètement dissociée, c'est une eau qui est entièrement défaite. Et ici, j'ai mis en bleu l'hydrogène et en jaune l'oxygène. Et le nouvel oxygène qui sort de la photosynthèse, ce n'est pas simplement de l'oxygène qui reste du CO2, c'est de l'oxygène qui vient de l'eau. C'est de l'oxygène qui n'a encore jamais été dans l'air, jamais été respiré. C'est de l'oxygène vierge. L'hydrogène de l'eau part dans le glucose en bleu et dans une nouvelle eau, tout au bout de la formule, H2O. Et cette nouvelle eau, elle, a de l'oxygène aussi, H2O, mais son oxygène vient du CO2. C'est de l'eau vierge qui n'a jamais coulé, qui n'a jamais participé au cycle. Et c'est quelque chose d'absolument phénoménal. L'arbre prend du CO2 et l'incorpore dans la masse organique, mais il prend de l'eau et il en fait de l'oxygène, il en fait du sucre et il en fait de la nouvelle eau qui n'a jamais été bue, pourrait-on dire. Voilà, ça concerne la photosynthèse. Et si on considère les masses, en dessous, j'ai mis les rapports de masse. Pour 1000 kilos de bois à l'état sec de cet arbre, on a eu besoin pas de 1000 kilos de CO2 gazeux, mais de 1851 kilos de dioxyde de carbone, de CO2. Donc chaque kilo de bois, c'est presque 2 kilos de CO2 captés dans l'atmosphère et incorporés dans la terre. Et c'est ça la problématique et les perspectives, c'est qu'on fasse travailler les arbres pour pas seulement diminuer, mitiger le problème du réchauffement climatique, c'est une solution à ce problème. Ce n'est pas seulement une réduction du problème. Et l'autre aspect, c'est que pour chaque kilo de bois, vous avez pratiquement 1,3 kilo d'oxygène qui est produit, d'oxygène vierge jamais respiré, et 500 grammes d'eau. Nouvelle. Voilà, ça c'est une chose que je trouve importante concernant la photosynthèse, une chose trop peu connue. Deuxième aspect, d'où te vient cette matière? La grande image avec l'homme à ses pieds, c'est des Douglas. On en a ici justement qui poussent dans la colline en dessus de cet endroit. C'est des arbres qui sont capables d'atteindre une hauteur de 100 mètres. C'est parmi les géants de la nature, le Douglas, le séquoia et le séquoia-dendron. Et un exemple ici pour montrer de quoi les arbres sont capables, le bodybuilding, c'est le général Grant. C'est un peu paradoxal, c'est un séquoia-dendron qui reçoit le nom d'un général américain qui n'était pas carrément directement ami de séquoia. Séquoia est un nom indien. Rendons aux Indiens ce qui leur appartient en fait. Mais cet arbre représente un volume de 1350 mètres cubes de bois. 1350 mètres cubes, c'est si vous aviez un arbre carré à la base de 1 mètre sur 1 mètre, chaque mètre cube 1 mètre de haut, c'est 1,3 km de haut pour un seul arbre. Ça pèse estimativement 800 tonnes à l'état anhydre, 800 tonnes, 800 petites voitures, les unes sur les autres. Et d'où vient cette matière? C'est 798,4 tonnes qui proviennent de l'air et de l'eau. L'eau étant considérée comme à la fois gazeuse et liquide, l'arbre est aussi capable de capter l'eau atmosphérique. C'est donc de l'invisible, c'est de l'impondérable. L'eau et l'air, c'est carrément de l'invisible que l'arbre est capable de fixer, de capter. Et le reste, c'est 1,6 tonnes, 0,2%, c'est des substances minérales. Qui sont tirés du sol dans la sève brute. Voilà, ça c'est l'arbre avec sa substance, mais l'arbre nous apporte aussi au niveau substantiel des choses aussi beaucoup plus subtiles. C'est par exemple le tilleul qui, au mois de juin, diffuse son arôme, son parfum délicieux. C'est aussi de la substance qui appartient au tilleul et qui marque un endroit de manière tout à fait étonnante. Et si on arrive maintenant au facteur temps, là il y a toute une histoire de la science derrière. C'est ces recherches qu'on a initiées tout d'abord en milieu tropical sur la germination des arbres. On a essayé. Mon grand-père travaillait avec ce facteur. Il disait il faut faire attention à la lune quand tu fais ceci ou cela. Il était agriculteur. Et ça m'a toujours un peu accompagné dans ma démarche de chercheur. Et en milieu tropical, on est en conditions constantes de pratiquement de température, de luminosité, etc. Et là, on a pu faire des essais en pépinière, très très schématiques, très très bien structurés selon la démarche scientifique. Et c'était évident, on a eu des résultats tout à fait parlants qu'on a pu présenter ensuite à Montpellier. Ici, c'était très intéressant. C'est que ça joue un rôle très important quand on met la graine en terre pour les résultats de germination, taux de germination, rapidité de croissance, etc. Ça a initié toute une recherche sur l'effet de la Lune sur les arbres. Et ensuite, on a continué sur une découverte qui avait été faite à moitié par des chercheurs italiens au sujet de laquelle Francis Allais nous a aussi rendu attentifs. Ici, je soupçonne quelque chose d'extrêmement lunaire concernant des variations du fût de jeunes arbres maintenus en milieu constant, dans des petites serres, température constante, humidité constante. Et ces arbres avaient été observés comme étant en train de pulser dans leur diamètre, mesuré au niveau du tronc. Vous avez cette image, cet appareil, pour mesurer au centième ou millième de millimètre les variations de diamètre. Et ces diamètres étaient sans arrêt en train de pulser, mais pas dans un rythme de 24 heures, comme on l'aurait attendu, comme étant l'effet du soleil, jour-nuit, etc. Mais c'était dans une périodicité de 25 heures. Et les chercheurs, les collègues italiens avaient juste montré ce phénomène, quantifié ce phénomène, mais dans leur publication, le mot lune n'apparaissait pas. L'hypothèse était trop audacieuse pour qu'on mentionne que ça pourrait éventuellement être la lune. C'était déjà trop, c'était difficile d'aborder une recherche avec un critère qui est tellement ancré dans la tradition. C'est clair, vous avez toutes sortes d'attributs qui sont tout de suite associés à ce genre d'hypothèse. Simplement de penser vous taxe déjà dans un certain secteur. Donc on a repris ces données, on a pris contact et on a pu vérifier, c'est le grand graphique, c'est ces variations du fût, ces deux chapeaux mexicains qui se suivent. Avec une période de 25 heures, on a pu montrer, le graphique d'en dessous, que c'est exactement la variation de la gravitation terrestre modulée par la Lune. Donc vous avez le Soleil, la Terre avec l'attraction terrestre, la gravité, et la Lune, elle modifie ça en passant entre le Soleil et la Terre et en tournant autour de la Terre, etc. Donc ici, une découverte fondamentale qui nous a permis de publier ça. J'aurais jamais pensé, osé, encore une fois, publier ça à un endroit tel que ça a été finalement fait. Francis Allais nous a dit, mais suggérer ça à Nature, la revue mondialement la plus connue scientifique. Bon, pourquoi pas, tout était prêt. On se lance, et chance incroyable, ça a passé, ils ont été intéressés, et ça a déclenché pas mal de choses. Le deuxième graphique, c'est 12 ans plus tard, un groupe de chercheurs anglais ont repris toutes les données des Italiens, qui étaient très très, très, très bien élaborées, et ont pu aller même plus loin dans l'hypothèse. Ils ont pratiquement tout pu certifier ce qu'on avait déjà obtenu dans un premier résultat. Et ils ont vraiment établi ce phénomène gravimétrique au niveau de la plante de manière très solide. Si vous mettez des électrodes dans les arbres, vous allez mesurer des variations journalières, des variations saisonnières et des variations lunaires le long du mois lunaire, pleine lune, nouvelle lune, mais aussi des variations de ce genre-là. C'est ce qu'on a fait une thèse à Innsbruck. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les arbres, si on leur met des électrodes, on remarque qu'ils sont en pulsation constante. Là, on le voit en communication avec le soleil, avec la lune, ce n'est pas directement avec les objets, mais c'est avec les cycles, avec les rythmes solaires, les rythmes lunaires, ce n'est pas causal. Et une chose intéressante, c'est que les arbres ont une fréquence aussi au niveau électromagnétique de 0,2 à 4 ou 5 Hz, c'est des fréquences des pulsations par seconde, par lesquelles on remarque, et les Américains ont pu faire cette observation, que les arbres sont aussi en communication avec le champ géomagnétique terrestre. Les arbres pulse aussi avec le champ géomagnétique terrestre, donc la gravitation, mais le magnétisme aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que les arbres, ensuite les Japonais ont découvert ça, sont capables, comme les éléphants qui fuient avant le tsunami et se retirent en forêt, les arbres ont été observés comme étant prédicteurs de tremblements de terre. Des secousses sismiques sont perçues avant qu'elles n'arrivent par les arbres. Grâce à des électrodes, on a observé ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fréquence de pulsation, cette faculté de percevoir ces vibrations de la Terre, se passe au même niveau que on a des fréquences du cerveau qui ont lieu à différentes, dans différents modes de fonctionnement. Et lorsque le cerveau humain se trouve en mode de sommeil profond, il a une fréquence de fonctionnement de 0,2 à 4 ou 5 Hz. Et ça, c'est intéressant, ça nous rend l'arbre très proche. C'est comme si on avait des modes de vibration parallèles, simultanés. Ça laisse ouvert des tas de questions, naturellement. Naturellement, toujours cette question, est-ce que les arbres parlent, etc. Communication, tout ça, c'est très, très complexe. Mais ici, ça montre qu'on a quand même plus en commun que ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait parler de la pulsation des bourgeons qui ont aussi lieu en fonction des cycles lunaires. Mais maintenant, c'est encore plus fabuleux. Et ça, c'est en train d'être vérifié. Une thèse est en train de se faire près de Bâle avec une université allemande qui vérifie ça. C'est que les bourgeons pulsent, c'est comme un cœur qui s'ouvre et qui se ferme. Ils essayent sans arrêt de s'ouvrir, comme au printemps, ils vont réussir à s'ouvrir à l'éclosion. Ils essayent tout l'hiver de s'ouvrir et se referment en petites pulsations. Et là, on a pu observer d'abord ce phénomène qui est absolument étonnant, cette pulsation des bourgeons. L'arbre était sans arrêt en train de pulser. Et maintenant, le facteur, c'est de nouveau la Lune qui tourne autour de la Terre. Et maintenant, c'est une vieille tradition absolument incroyable. Les anciens, les alchimistes, entre autres, attribuent à l'arbre une parenté ou bien une forme de relation avec certaines planètes. Le chêne, c'est clair, on a toujours attribué le chêne à Mars, le dieu de la guerre, et la planète Vénus, etc. Et ces chercheurs ont réussi à montrer que les pulsations des bourgeons du hêtre fonctionnait en fonction de la Lune devant Saturne, du chêne, la Lune devant Mars, du cerisier, la Lune devant le Soleil. Mais maintenant, c'est au deuxième degré. C'est le Soleil comme le Soleil était attribué à Apollon, Zeus, etc. Donc, de nouveau, on se trouve devant un abîme de questions et on se trouve devant un respect qu'on a finalement devant les anciens qui semblaient faire de la philosophie, faire de la poésie. Mais c'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça, c'est pas simplement de la poésie. La poésie, c'est beaucoup plus scientifique que ce qu'on pense. Donc les bourgeons, pour encore mentionner deux ou trois autres choses. Le bois aussi, les propriétés du bois. Et maintenant, concernant le bois et les structures, si vous prenez un cône de pin, par exemple, comme vous l'avez ici, vous pouvez compter le nombre de spirales selon lesquelles les écailles du cône sont orientées. Vous aurez 13 spirales contre la gauche, 8 spirales contre la droite. Vous pouvez prendre tous les cônes du monde. Vous allez toujours avoir des chiffres du nombre de spirales, que ce soit des cônes de Douglas, comme on a vu avant, de pin, d'épicéa, de sapin blanc, etc. Et même pour l'orientation des aiguilles autour d'une tige, vous pouvez voir que les aiguilles sont orientées selon des spirales, deux spirales. Et ce qui est intéressant, c'est que ces spirales font partie d'une suite mathématique. Elles sont incorporées dans un système mathématique qui est absolument étonnant. C'est une suite qu'on nomme la suite de Fibonacci, qui part de 0 et de 1. C'est en fait la relation entre le 0 et le 1. Travail pour les philosophes, qu'est-ce que le 0 et qu'est-ce que le 1, quel est leur rapport? Eh bien, si vous établissez le rapport entre le 0 et le 1, vous faites par exemple la somme, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse, ou bien quelque chose dans ce sens-là, je ne suis pas philosophe, vous faites toujours la somme, vous aurez 0, 1, 0 plus 1 donne 1, 1 plus 1 donne 2, 2 plus 1 donne 3, 5, 8, 13, 20. Et ensuite, on observe que plus on avance dans cette suite, plus le rapport d'un chiffre par rapport au précédent, se rapproche de ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est un nombre irrationnel qui a des propriétés tout à fait étonnantes. Vous avez des chapitres entiers dans les livres de mathématiques sur le nombre d'or, vous avez des livres entiers sur le nombre d'or. C'est une mine d'étonnement. Et le cône est construit selon ce système. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une des spirales est orientée contre en haut. L'arbre est un double flux, ce que j'aurais pu mentionner dans concernant la photosynthèse. Il y a un flux ascendant de sève brute qui alimente la couronne et un flux descendant de sève élaborée. Le premier flux est à l'intérieur, monte en spirale. Des recherches ont pu montrer ça. Probablement que le flux descendant descend aussi en spirale, ça n'a pas encore été prouvé. Donc ce mouvement dans le double sens, c'est ici. Vous avez deux systèmes de spirales qui probablement se rencontrent, l'un et l'autre, contre la gauche et contre la droite. C'est une hypothèse ouverte. Ce qui est étonnant, c'est que ce nombre d'or est à observer dans les plantes de manière systématique, la phyllotaxie, l'orientation, l'emplacement des feuilles. Mais si on a parlé de la Lune, des rythmes lunaires par rapport aux arbres, la croissance, la germination, etc., pulse d'après ces rythmes-là. Et la Lune et le Soleil et la Terre, c'est des corps astronomiques. Je ne parle pas d'astrologie, je parle vraiment d'astronomie et d'astronomie mesurée. La Terre a une certaine dimension et la Lune a une certaine dimension. Et si maintenant, vous posez la Lune contre la Terre, au lieu de l'avoir à 300 000 km, avec sa dimension actuelle, on a, est-ce que c'est une curiosité? Est-ce que c'est quelque chose d'incroyablement profond? On observe une chose, et c'est très difficile du point de vue scientifique d'observer ça, parce que ça pose des questions absolument incroyables, c'est que la Lune, avec 1738 km de rayon, posée sur la Terre, qui a 6371 km de rayon, et si vous construisez avec le diamètre de la Terre à la base et vous faites un triangle qui va au centre de la Lune, vous obtenez un triangle dont le côté ici dessiné sur la gauche par rapport à la demi-base est exactement dans le rapport du nombre d'or avec une précision de 0,3 pour 1000. C'est une précision absolument fabuleuse. Et là, on a vu les arbres structurés comme ça selon le nombre d'or, fonctionner comme ça selon la Terre et la Lune. Et brusquement, on observe le nombre d'or entre la Terre et la Lune. Et j'ai personnellement pu faire une observation supplémentaire, je suis en train de traduire ça. C'est que la Terre, la Lune et le Soleil sont encore une fois dans un triangle du nombre d'or. C'est incroyable. Et un mathématicien français, Souriau, a travaillé là-dessus, mais du point de vue du temps, Les révolutions des planètes en nombre de jours, la Terre 365 jours, Vénus, etc., les planètes sont placées selon le nombre d'or d'une manière étonnante. Il a fait une découverte qui répond à beaucoup de questions tout à fait étonnantes, qui montrent que non seulement l'espace est structuré selon le nombre d'or, mais le système planétaire, mais à l'intérieur de ça, les plantes, sont structurées temporellement selon des rapports du nombre d'or. Et maintenant, qu'est-ce que ça suggère, cette Terre, avec ce triangle dimensionné grâce à la Lune, posé sur la Terre? Quelle est la forme de ce triangle? Je pose ça maintenant comme question dans l'auditoire. Quel est l'objet que vous connaissez qui a cette forme? Oui, ça c'est clair, mais exactement laquelle? Khéops, c'est fabuleux. Khéops a été fabriqué pratiquement dans le même rapport. Je crois qu'elle est même un tout petit peu plus précise que la Terre et la Lune. Elle a 0,2 pour 1000 de précision dans ce rapport-là. Le Parthénon, les Grecs, les Égyptiens, et même en Amérique du Sud, on est en train de voir qu'il y a des rapports de construction basés là-dessus. Donc vous avez l'observation de la nature dans l'immédiat, un cône. Et ce cône, on pourrait parler du triangle de Pythagore qui permet de reconstituer tout ça, le chiffre 3, 4 et 5, etc., les anciennes civilisations et les arbres qui nous indiquent à la fois l'espace, à la fois l'astronomie dans son immensité et les anciennes civilisations dans leur incroyable connaissance qu'on est en train d'aborder. Voilà, c'est deux ou trois réflexions ou étonnements sur lesquels je me suis encoublé en disant en vaudois et que j'aurais voulu partager avec vous. Avec cette image de Baobab de Madagascar, certainement que plusieurs d'entre vous les connaissent bien. Déjà, en tant que tels, ces baobabs sont des sources d'étonnement. Cette légende qu'ils ont été plantés à l'envers, que c'est les racines qu'on voit, là aussi, l'arbre nous renverse complètement nos certitudes et sont source d'inspiration. On a vu pour le réchauffement climatique, ils sont en fait la solution et qu'on passe par le bois ramel fragmenté, par la la terra preta ou d'autres méthodes, et simplement de travailler avec les arbres de manière partenariale, je crois que c'est là qu'on va pouvoir commencer un vrai avenir. Et je vous remercie pour votre attention.
Alors, je vais parler de mon appréhension des arbres, moi, dans le paysage. Je suis paysagiste. Bon.
Gilles Clément, paysagiste, jardinier, écrivain.
Je dis que je suis jardinier aussi, plutôt, hein, parce que je préfère ce terme-là. Pour moi, le jardin, surtout si on le regarde à une grande échelle, il contient le paysage. Le jardin, il est forcément fait de vivant. Le paysage, pas forcément. Il y a un paysage intérieur ici. Nous sommes vivants, c'est sûr, mais on a des matériaux inertes qui font partie de ce paysage-là. Un jardin, c'est quelque chose de très particulier qui parle essentiellement de la question du vivant. Et ça travaille avec le temps. Les arbres, pour moi, je les ai vus dans mon paysage limousin. Là, vous avez une image du Limousin, apparaître de façon considérable. J'ai vu en une quarantaine d'années se transformer le paysage de façon très forte. Vous voyez, par exemple, ici, il n'y avait pas toute cette masse forestière. Cette masse forestière, c'est une vue prise d'avion, on ne se rend pas compte qu'il y a des pentes. Il y a un relief qui justifie le fait que les machines agricoles, à partir des années 50, 60 du siècle passé, ont abandonné de venir là et que les humains n'y sont plus venus à pied avec leurs animaux. Bref, ça s'est boisé et ça constitue, à mon analyse paysagère, une inversion du paysage. C'est-à-dire qu'autrefois, ce que vous voyez en boisement ici était clair, souvent des landes dans les pays donc de la bruyère rose. Les impressionnistes dans la région que j'habite venaient peindre au début du XXe siècle l'école de Crozant. Et on y venait, Monet y est venu. Bon, c'est toute une histoire parce qu'il est venu faire quelque chose qui sont des tableaux avec les fougères et les bruyères. Il n'y avait pas d'arbres. Et les premières photos de cette époque-là montrent des paysages complètement déboisés. Bon. Les arbres existaient sous forme de petits boquetaux et de très, très nombreuses haies qui ont disparu par le remembrement qui a commencé dans ces années 60. Là, le paysage que vous voyez est relativement encore équilibré avec encore quelques haies, mais il y a des endroits où il n'y en a plus du tout. Donc vous avez des ensembles forestiers qui sont assez continus et qui sont toujours dans les lieux accidentés et au contraire une ouverture très grande dans les espaces exploitables par l'exploitant agricole avec ses énormes machines d'aujourd'hui. C'est ce que j'appelle une inversion du paysage qui correspond à une inversion de la biomasse. Mais si on se place en termes de biomasse, pour le coup, pour les arbres, on a beaucoup plus d'arbres aujourd'hui qu'il n'y en avait à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sauf que on n'est pas toujours capable de les exploiter, et ce n'est pas plus mal que pour ça. Ne rien faire est très utile, hein. C'est utile à tous. Dans notre métier, ne rien faire, c'est fabriquer de l'oxygène. C'est ça. Puisque si on ne fait rien en tant que jardinier, il pousse un arbre. C'est le niveau climatique. Forcément, vous abandonnez un terrain, ça devient une friche, la friche s'arme, puis elle se boise à la faveur de ses épines, on sait, les systèmes de protection. Bref, au bout d'un moment, ça finit par faire une forêt. Donc, ne rien faire est très utile. Parce que c'est utile à tous. Faire quelque chose est utile à un petit groupe, c'est un projet, mais sinon, bon. Si on se plaçait d'ailleurs sous le seul regard de la question de la diversité, il faudrait additionner celle qui arrive spontanément dans ces lieux qui sont des lieux de nature, d'abandon, à celles que l'on cultive et que l'on maintient depuis toujours et qui n'existent pas dans la nature, qui n'existent pas à l'état naturel, qui sont l'objet d'une sélection très forte et qui quelquefois sont très intéressantes et importantes. Le milieu méditerranéen, et on y est presque ici, est un milieu très intéressant de ce point de vue, dans le sens où il y a un équilibre entre une diversité naturelle et une diversité maintenue artificiellement par l'homme, l'un n'ayant pas détruit l'autre. Ces installations de ces diversités, là maintenant c'est une vieille image, ça, à Buenos Aires, donnent lieu donc à des terrains qui s'enfrichent comme cela. Ça c'était au départ une somme de gravats très importante qui, sur plus de 250 hectares, se sont avancés dans le Rio de la Plata et c'est devenu la réserve écologique de la ville de Buenos Aires parce qu'ils n'ont pas pu construire la ville telle qu'ils voulaient, l'agrandir là. Aujourd'hui, c'est boisé. Je n'ai pas la photo qui le correspond, mais vous pouvez l'imaginer que progressivement, c'est devenu quelque chose qui ne représente plus du tout ce paysage ouvert. Il y a des arbres comme ça. Et puis le deuxième, là j'ai parlé de l'arbre en tant que système paysager, son évolution dans le temps et ce que ça a joué comme rôle dans notre propre paysage du Limousin ici, et puis en général la question de l'inversion du paysage, etc. Puis il y a l'objet arbre, qui n'est pas le mot qui convient, l'être arbre, mais l'être source d'étonnement et d'inspiration, mais d'art. L'arbre art, l'arbre, ça renvoie au baobab que nous avons vu tout à l'heure. C'est une plante de la famille des vignes et qui vit dans le désert du Namib, ce petit arbre-là. Il est grand comme à peu près, un peu plus qu'un homme, c'est 3 à 4 mètres de haut, c'est assez petit. Et cette plante-là, elle est comme d'autres dans des zones climatiques similaires, presque toujours sans feuilles. C'est-à-dire que c'est un arbre qui vit avec son appareil végétatif foliaire qui lui permet de stocker aussi toute son énergie et pendant un temps très très court, qui est le temps où il pleut un peu, où c'est possible pour lui de vivre. Et puis le reste du temps, il fait tomber son feuillage. Bon, il se met en dormance, en somme. Il se met au repos. Un extraordinaire mode de vie. Mais tous les feuillus font ça. Ils jeûnent. Oui, mais c'est très intéressant, vous voyez, c'est qu'il est dans la non-dépense. Et ce serait un modèle de civilisation. Comment pourrions-nous faire à la fois pour envisager le recyclage complet? Pour moi, l'arbre est l'image de ce qui peut tout recycler. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, une table qu'on le recycle, un vêtement qu'on recycle, une voiture qu'on recycle, une ville qu'on recycle? L'arbre, toute la matière organique se recycle. Et en même temps, non-dépense. Quand il y a eu en 2003, l'année de la sécheresse, je crois que c'est 2003, la canicule, les arbres du Limousin que je vous montrais tout à l'heure ont abandonné leur feuillage. Je me dis, oui, c'est pas un problème. Nous. Par contre, les conifères ont souffert, qui n'étaient pas prévus pour ce climat-là, et il y en a qui sont morts. Ceux-là sont morts parce qu'ils n'ont pas résisté, ils ont continué à évaporer. Donc ça, c'est une adaptation remarquable et intéressante. Bon, puis alors, il y a des choses peut-être un peu plus connues, ça c'est encore avec le développement. On ne sait plus si c'est des branches ou des racines. Là, c'est l'architecture qui est enveloppée par les banians. C'est magnifique, évidemment. C'est aussi très impressionnant. Il y a quelque chose d'animal là-dedans et qui renvoie à la sculpture. Enfin bon, voilà.
Francis, allez.
Je voudrais demander à Ernst Zürcher de nous expliquer ce qui se passe dans un arbre quelque temps avant un séisme. Ça, je trouve ça absolument passionnant. Je ne connaissais pas. Vous savez que je me passionne pour ce genre de choses.
On a parlé d'un collègue chercheur de Bristol qu'on connaît en commun. Et il m'a donné une publication en prélecture. Sur le sujet. Dans cette publication, il mentionne un travail qui a été publié dans Nature, d'ailleurs, d'un certain Fraser Smith, qui a montré qu'on peut utiliser les arbres comme antennes qui permettent de... Les sismologues, les géologues ont des systèmes assez compliqués pour mesurer le système ou bien les signaux géomagnétiques terrestres. Et il a eu la curiosité de placer des électrodes sur les arbres. Il a pu voir que ce que les appareillages extrêmement compliqués font peuvent être faits par les arbres. Il suffit de se brancher sur eux. Et Peter Barlow est en train de préparer une publication sur les plantes et les rythmes lunaires. Et il fait entrer cette dimension-là de ces périodicités à haute fréquence, à relativement haute fréquence. Et il mentionne que des chercheurs japonais ont travaillé sur, je pourrais vous donner l'essence, des essences au Japon qui permettent en fait de prédire l'arrivée d'une secousse sismique. Et ils sont en train de vraiment travailler là-dessus comme système de prédiction du phénomène. Je pourrais vous donner ces détails.
Passionnant. J'ai toujours pensé qu'on n'avait pas investi suffisamment d'intelligence et d'imagination dans la prédiction des séismes. Que les arbres puissent nous aider là-dedans, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je me permettrai de vous écrire, Ernst.
D'accord. Peut-être un complément à ce sujet-là. Les arbres permettent aussi de prédire le temps qu'il va faire. Il y a des tas de règles rurales qu'on a toujours considérées un peu de manière légère comme étant du folklore. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps a aussi une certaine logique en elle-même. C'est pour ça que les climatologues, les météorologues disent quand il fait beau à telle ou telle saison, on a tant de chances d'avoir un été froid ou chaud, etc. Chaque région a ses règles pour le climat. Et chaque plante, la végétation, est prise dans ce cycle climatique. Et si on observe exactement les arbres ou les plantes, on peut voir s'il se passe ceci à ce moment-là, il y a pas mal de chances que dans toute cette logique, pas seulement végétale, mais climatologique, il y ait tel ou tel déroulement qui suit. Il y a vraiment une logique organique dans le climat lui-même. Et ça, c'est un livre très intéressant sur la phénologie de Jochen Nitzold, un Allemand qui a travaillé des décennies sur le sujet. Il a montré la réalité de cette faculté des plantes de montrer à l'avance comment les choses vont se passer du point de vue du temps.
Alors, Caroline Molly.
Je profite des personnes très compétentes qui sont en face de moi pour poser une question. Quand je me promène dans la forêt, dans la montagne, tout ça, je suis complètement stupéfaite par notamment les châtaigniers qui sont complètement torsés. Et je n'ai pas trouvé de réponse jusqu'à présent. Et je voulais savoir si vous pourriez m'apporter une réponse éventuellement, si ça a un lien avec les saisons, la lune, ces espèces de n'y a pas que les châtaigniers, d'ailleurs, il y a certains pins, mais on voit des troncs qui sont complètement torsadés, qui pour moi sont vraiment une énigme.
Six, allez.
C'est un sujet que j'ai étudié. On ne peut pas mettre tous les arbres torsadés dans le même panier, parce que c'est très compliqué. Il y a ceux qui sont, je pense aux amandiers, notamment dans le Midi, la moitié tourne à droite, la moitié tourne à gauche. Donc c'est un phénomène aléatoire qui commande ça. Il y a ceux qui tournent tous dans le même sens. Le simple marronnier des jardins publics, il tourne toujours dans le même sens. Et il y a quelques années, j'ai espéré le voir tourner dans l'autre sens en allant en Nouvelle-Zélande, mais non. Il continue à tourner dans le même sens. Donc là, ce n'est pas du tout le même système. Il y a encore un troisième système dont les Japonais se plaignent beaucoup, c'est le mélèze du Japon, qu'ils utilisent comme bois d'œuvre. Alors, le jeune mélèze, il tourne dans un sens, et le mélèze devenu vieux tourne dans l'autre sens. On n'a que des hypothèses, donc j'arrête là.
Ajouter quelque chose dans ce sens-là, concernant la troisième remarque, les pins, les mélèzes, mais en fait, tous nos résineux, surtout le pin sylvestre, l'épicéa, ont ce phénomène, c'est de tourner dans une phase relativement juvénile contre la gauche, ensuite quelques peu d'années rectiligne, ensuite tourner contre la droite. Et c'est intéressant parce qu'on fait un rapprochement au niveau de la société. C'est comme en politique, quand on est jeune et qu'on a beaucoup à partager, on est intéressé au partage et plus tard ça change. Mais la question reste.
On va écouter Jean-Christophe Bailly, qui va nous inspirer, comme chaque fois.
Bon, j'espère. Mais c'est embêtant parce que, en effet, le petit peu de temps qui nous reste est un peu affolant, parce que par rapport à ce matin, on aurait envie de parler, de parler, de parler. Donc je vais essayer d'être bref. Et je ne vais surtout pas essayer de faire une synthèse ou quoi que ce soit. On voit bien que c'est totalement arborescent, quoi, un débat, et que ça réitère en chacun de nous, et que c'est voilà. Et l'image d'un colloque réussi, au fond, ce serait celle plutôt d'un système racinaire infini qui se propage. Donc sur un tout petit segment, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais je vais essayer quand même, moi, dire ce qui m'a le plus frappé, par exemple dans la première intervention de monsieur, j'ai oublié votre nom, mais monsieur l'arboriste, m'a énormément frappé le fait qu'il y a un mot formidable qui est le tact, hein, parce que ça réfère au toucher et ça réfère à la prudence. C'est-à-dire que c'était ce que j'ai retenu de votre approche, quoi. Le tact, c'est-à-dire tactile et un énorme égard. Et avec cette dimension qui est venue qu'on ne peut pas tout prévoir. Évidemment, le mieux, le plus on a de connaissances des sols, de la manière dont les arbres s'implantent, de la manière dont ils poussent, de telle espèce, et des rapports qu'ils peuvent avoir. On utilise tout ce stock, mais sans qu'il soit remis en cause, il est à disposition, mais comme un faisceau de questions plutôt que comme un système de réponses. Et c'est par une sorte de palpation, je veux dire, ce que vous avez appelé la façon dont il y a des sensations. Je ne pense pas qu'on était du tout dans quelque chose de mystérieux ou de nécessairement mystique, pas plus d'ailleurs qu'avec vous forcément tout à l'heure, mais qu'il y a quelque chose qui vient comme ça dans cette lenteur-là. Et je crois que d'ailleurs c'est ce qui réunirait les trois interventions, c'est la notion de lenteur, de pondération et surtout une échelle temporelle ou une interpénétration des échelles temporelles qu'il faut toujours avoir à l'esprit, je crois, pour aborder spécialement les arbres, spécialement le monde végétal, mais aussi les problèmes qui se posent à nous avec notre comportement, par rapport au comportement que nous avons avec eux. Et puis alors, donc dans l'intervention extraordinairement ouvrante comme ça de Ernst Zürcher, c'était extraordinaire parce qu'on se sentait brusquement bercé. Et ce qui m'a beaucoup le plus touché, c'était cette notion de pulsation, de le fait que moi je me suis plutôt davantage intéressé, je l'avoue, au monde animal qu'au monde végétal, un petit peu comme ça, une légère. C'est pas une question de préférence, une question de comme ça, à un moment donné, l'attention bifurque plutôt vers ceci que vers cela. Et j'ai toujours été très intéressé par ce qui se passe quand on regarde un animal qui dort et quand on essaye de descendre dans son sommeil. Et la première chose qu'on voit, c'est en tout cas pour les mammifères, mais aussi pour certains autres. C'est la pulsation, justement la pulsation de, évidemment chez eux, du système respiratoire, mais c'est quelque chose où on peut dire que là on est vraiment en phase avec eux, on comprend ce qui leur arrive parce que on vit la même chose qu'eux, on la vit, et il y a sans doute des études formidables à faire sur ce qui se passe dans le sommeil des animaux, mais c'est pas mon sujet. Mais c'est formidable maintenant de se dire aussi que pendant qu'on regarde le chat qui dort et qui respire, on sait qu'à côté, il y a le marronnier, le tilleul, qui font pareil, quoi. Et il ne faut pas entrer là-dedans, dans une histoire d'infinité, d'ondes douces, etc., parce qu'on voit très bien ce que ce type de discours pourrait générer comme paresse, mais au contraire, justement, c'est une notion, une autre approche de ce qu'est l'activité. Et ça rejoint tout ce qui a pu tourner autour de la dormance dans l'exposé de Gilles Clément, c'est-à-dire que tout est toujours en train d'être vivant. Même la dormance, c'est une forme de vie. J'ai pas trop bien compris les rires qu'il y a eu au moment où Gilles avançait que c'était un modèle de civilisation, parce qu'on vit dans une civilisation aujourd'hui qui est devenue insomniaque, qu'on pourrait caractériser comme les insomniaques gravement atteints même. Et que trouver des ralentis, et que le monde végétal, en effet, devant cela, pas seulement sous la figure d'une allégorie de sagesse, etc., que pourraient représenter les grands arbres, mais ils sont devant nous et pour nous, disons, la preuve matérielle, et même un peu, pas immatériel, c'est un mot que j'aime pas, immatériel, mais impalpable et palpable, les deux à la fois, d'un rythme que nous devrions être capables, de rythme au pluriel plus exactement, que nous devrions être capables de retrouver, avec lesquels nous devrions pouvoir ou savoir nous réaccorder. Après, la quantité de questions qui se posent, tant par rapport à la réévaluation du CO2, que par rapport à la forêt Groupama, etc., etc., c'est colossal. Bon, j'en resterai là, mais disons que je trouve ce qui est magnifique, c'est de voir comment un sujet, qu'on peut dire relativement focalisé, vu de loin, comme l'arbre, en même temps, il se dissémine, il se disperse, et que au fond, les composés organiques volatiles, c'est presque une allégorie de la pensée, quoi. La pensée, c'est des voques aussi. Et on n'en attrapera qu'un tout petit peu, voilà. Mais bon, excusez-moi, c'est un peu confus, mais je suis presque un peu ému devant l'immensité de ce qui a été sondé, approché ce matin. Et juste pour terminer, ce qui est évidemment très, très intéressant, c'est de voir à quel point l'approche scientifique n'est pas du tout et pas automatiquement et surtout pas du tout en rupture avec l'écoute la plus poétique, et que les intuitions des romantiques allemands qui parlaient de l'aspect romantico-poétique des sciences, c'est assez formidable de les voir revenir comme à travers votre exposé. Voilà.
Merci Francis Allais, Ernst Zürcher, Gilles Clément, Étienne Barthaud. Merci aussi Marie-Paul Bossan pour ce très beau colloque qui s'est tenu à Brive, les États généraux de l'arbre, début octobre 2011. Terre à Terre, c'est terminé pour cette année. Vous pouvez télécharger cette émission sur votre site franceculture.fr. Vous pouvez également nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Réalisation, Vincent Bouchard. À l'année prochaine!